Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 10 août 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord les titres. Sommet extraordinaire de la CDAO sur le Niger, ce jeudi à Abuja, au Nigeria. Formation à Niamey du nouveau gouvernement de la transition. L'existence de la CDAO en jeu dans la crise nigérienne, selon Oumarou Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau. Au Burkina Faso, une guérisseuse évadée, écrouée à la prison militaire. En Équateur, l'état d'urgence déclaré et élection maintenue après l'assassinat d'un candidat présidentiel. Ici aux États-Unis, au moins 6 morts et des milliers d'évacués ou d'évacuations à Hawaï, ravagés par de multiples incendies. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. À la veille du sommet extraordinaire de la CDAO sur la crise politique au Niger, les militaires au pouvoir à Niamey ont formé un gouvernement de transition, une équipe majoritairement composée de civils qui sera dirigée par l'économiste et homme politique Ali Mahaman Lamine Zeine. D'autres précisions avec notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
L'équipe est composée de 21 membres, dont 6 militaires. Elle compte 4 femmes. Le département de la défense est confié à l'ancien chef d'état-major général de l'armée, le général de corps d'armée Salifou Modi. Celui de la sécurité publique revient au général Toumba Mohamed. L'actuel représentant du Niger auprès des Nations Unies, Bakary Yaou Sangaré, est le nouveau chef de la diplomatie nigérienne, alors que celui qui était jusqu'ici le porte-parole de la junte, le colonel-major Abdrahmane Amadou, se voit attribuer le portefeuille de la jeunesse et des sports. L'enseignement supérieur et la recherche sont confiés au professeur Seydou Mahamadou, actuel recteur de l'université de Niamey. Le portefeuille de l'économie et des finances sera géré par Ali Mahaman Lamine Zeine, cumulativement avec ses fonctions de premier ministre de transition. La formation de ce gouvernement intervient à quelques heures du deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise politique au Niger. Les sanctions assorties d'une menace d'intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel prises à l'issue du premier sommet n'ont pas fait bouger les lignes d'une sortie de crise. Les tentatives de négociation que l'organe communautaire a initiées n'ont pas non plus été concluantes. Le chef des militaires putschistes, le général Abdrahmane Tchiani, a toutefois rencontré ce mercredi l'ancien émir de l'état de Kano, Sanoussi Mohamed. Celui-ci a annoncé, selon des sources, qu'il fera un compte-rendu de son entretien au président en exercice de la CEDEAO, le Nigérien Bola Ahmed Tinubu, qui a par ailleurs reçu, toujours ce mercredi, une correspondance de personnalités politiques nigériennes de haut rang, dont des anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, lui demandant de lever les sanctions imposées contre le pays à la suite du coup d'État. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Par ailleurs, le président de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, a déclaré hier que l'existence de la CDAO est en jeu dans la crise nigérienne. Le point avec John Linden.
Oumarou Sissoko Embalo, au moment de prendre l'avion pour Abuja, a estimé que la CDAO, dont son pays et le Niger font partie, joue son existence après les séries de putsch au Mali, en Guinée et au Burkina Faso depuis 2020. La situation que traverse la CDAO est vraiment préoccupante. Nous courons le risque de la faire disparaître, a-t-il déclaré, espérant qu'on ne va pas en arriver là. Le seul président que nous reconnaissons, c'est Bazoum, ajoutant que les coups d'État doivent être bannis. Il a assuré que le Parlement bissau-guinéen n'aurait pas à se prononcer sur l'envoi de troupes si la CDAO décidait d'une intervention militaire au Niger et qu'il pourrait le décréter après réunion du Conseil national de la défense, un organe qui le conseille sur les questions de sécurité.
Au Burkina Faso, une célèbre guérisseuse poursuivie pour coups et blessures et dont l'évasion aidée par des militaires avait suscité colère et indignation a finalement été écrouée hier à la prison militaire de Ouagadougou. Le point avec Michel Joseph.
Amsetou Nikiema, connue sous le nom d'Adja, et ses co-accusés ont comparu hier devant le tribunal de grande instance à Ouagadougou pour séquestration, coups et blessures et complicité. Ses avocats ont plaidé sa mise en liberté provisoire, ce qu'a refusé le tribunal qui a renvoyé le procès au 23 août. Elle est donc retournée à la maison d'arrêt et de correction des armées, la MACA, à Ouagadougou. Fin juillet, alors que les prévenus attendaient leur transfèrement en prison, le tribunal a été encerclé par des militaires en armes venus exiger qu'on leur remette la guérisseuse, ce qui a été fait selon Laurent Poda, procureur général du Faso. Par la suite, l'intersyndicale a appelé l'ensemble des magistrats à la suspension de toutes les activités jusqu'à l'emprisonnement de la guérisseuse. Ce mot d'ordre a été levé mardi. Amsetou Nikiema a été interpellé après la diffusion le 26 juillet sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un quinquagénaire torturé par des adeptes de cette guérisseuse qui officie à Komsilga, près de Ouaga. Adja attire des milliers de personnes pour des séances de guérison, de victimes de mauvais esprits et sa réputation n'a cessé de croître 3 ans après ses premières séances. Selon ses avocats, depuis l'absence de la guérisseuse, une trentaine de personnes sont mortes faute de prise en charge.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, au moins 6 personnes sont mortes dans l'archipel d'Hawaï, où 2 îles sont actuellement ravagées par plusieurs incendies. Ceux-ci ont détruit une ville, provoqué des milliers d'évacuations et forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes, selon les autorités. Le point avec Nanik Talani.
C'est un jour profondément sombre, a déclaré Richard Bissen, le maire de l'île de Maui, que les incendies touchent principalement, et dans une moindre mesure, celle d'Hawaï. Ils ont été aggravés par des vents violents allant jusqu'à 130 km par heure, nourris par la force de l'ouragan Dora qui passe actuellement dans l'océan Pacifique au sud de l'archipel. Claire Kent, une habitante de Lahaina, station balnéaire sur la côte ouest de Maui, décrit le chaos avec des gens coincés dans les embouteillages au milieu de voitures en flammes. Coincés par les flammes, certains habitants se sont jetés à la mer pour tenter de survivre. Les gardes-côtes disent avoir secouru plusieurs personnes des eaux au large de Lahaina. Le réseau hospitalier de l'île est dépassé par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée, d'après la vice-gouverneure Sylvia Luke. Les autorités tentent de transférer les patients vers d'autres îles. Des milliers de personnes ont été déplacées et sont actuellement hébergés dans des centres d'urgence, selon le gouverneur d'Hawaï, Josh Green. La garde nationale a été activée et le président Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles sur l'archipel pour lutter contre les feux. Le vent a fait tomber de nombreux poteaux électriques, provoquant des délestages. Les réseaux de communication sont coupés sur une partie de Maui.
L'état d'urgence a été instauré en Équateur pour 60 jours après l'assassinat mercredi de Fernando Villavicencio, candidat à l'élection présidentielle, à la fin d'un meeting électoral mercredi soir à Quito. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État, Guillermo Lasso. Les forces armées sont en ce moment mobilisées à travers tout le territoire national afin de garantir la sécurité des citoyens, la tranquillité du pays et des élections libres et démocratiques le 20 août, a déclaré le président équatorien dans une allocution diffusée sur YouTube. Ici aux États-Unis, des agents du FBI ont abattu un homme surveillé depuis des mois par les autorités américaines pour avoir proféré des menaces de mort contre le président Joe Biden. Le suspect a été abattu mercredi quand ils ont tenté de l'arrêter dans l'Utah, quelques heures avant une visite prévue du président dans cet État. Selon les autorités, il s'agissait d'un septuagénaire qui se présentait comme un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump et à plusieurs reprises menacé Joe Biden dans des publications sur les réseaux sociaux. Sa vice-présidente Kamala Harris, le ministre de la Justice Merrick Garland et le procureur Alvin Bragg, qui a supervisé l'enquête ayant abouti à une inculpation de Donald Trump à New York, ont aussi été menacés, tout comme les agents du FBI eux-mêmes. La Minute Éco, John Linden.
Le Conseil national de transition, qui tient lieu d'organe législatif au Mali, vient de voter un nouveau code minier à l'unanimité des députés réunis en séance plénière mardi. Ce nouveau texte de loi permettra de générer des revenus annuels supplémentaires de 500 milliards de francs CFA au moins. Parmi les nouvelles dispositions, l'État pourra désormais détenir jusqu'à 30% d'intérêt dans les projets miniers contre un maximum de 20% dans le code de 2019. 10 000 tonnes d'oignons importés sont attendues dans le port de Dakar d'ici le 14 août prochain. C'est ce qu'a révélé l'Agence nationale de régulation des marchés. Cela fait partie d'une série de mesures adoptées par le ministère du Commerce pour approvisionner le marché local en proie à une pénurie d'oignons qui fait grimper les prix. Le sac de 25 kilos d'oignons se négocie actuellement à plus de 23 000 francs CFA, contre 19 000 francs CFA il y a quelques mois. Le groupe Emirati Terminals Holding est devenu le nouvel exploitant de l'aéroport international de Malabo en Guinée équatoriale à la suite d'un accord signé le 5 août dernier entre le gouvernement et le groupe Emirati. Selon l'agence Ecofin, Terminals Holding a été préféré après un appel d'offres à 12 concurrents, dont Ethiopian Airlines.
Merci John. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Franck Kessié rejoint Firmino et Mahrez à El Ahly.
Le milieu de terrain ivoirien a quitté le FC Barcelone pour rejoindre Al Ahly pour un montant de 12,5 millions d'euros, ont officialisé les deux clubs hier mardi. Le promu en première division saoudienne poursuit ainsi son impressionnant marché estival. Après avoir obtenu les arrivées du Brésilien Roberto Firmino de Liverpool, du gardien de but sénégalais Édouard Mendy de Chelsea, de l'Algérien Riyad Mahrez de Manchester City et du Français Alan Saint-Maxime de Newcastle. Franck Kessié, âgé de 26 ans, n'aura passé qu'une saison au Barça où il était arrivé libre en provenance de l'AS Milan. Formé au Stella Club d'Adjamé à Abidjan, Kessié a également joué à l'Atalanta Bergame, qu'il avait prêté une saison à l'AS Cesena en Serie B avant de rejoindre Milan en 2017. Il compte un titre de champion d'Italie en 2022 et un titre de champion d'Espagne remporté la saison passée.
L'ex-star du Barça, Andrés Iniesta, rejoint un club des Émirats.
L'ancienne vedette de Barcelone et de l'Espagne a signé mercredi avec Emirates FC, un club des Émirats arabes, où il devrait finir à 39 ans sa carrière de footballeur après avoir quitté le Japon en juillet, plus tôt que prévu. Iniesta portera à nouveau le maillot numéro 8. Le joueur espagnol avait rejoint le Vissel Kobe en 2018 après 16 ans à Barcelone, son club d'origine avec lequel il a tout gagné, dont la Ligue des Champions à 4 reprises et 9 titres en Liga. Le joueur a aussi co-écrit les plus belles pages de l'histoire de la sélection espagnole, championne du monde en 2010 et deux fois championne d'Europe 2008 et 2012.
Les quarts de finale du mondial féminin demain, vendredi et samedi.
À une dizaine de jours de la finale de Sydney, la première Coupe du monde féminine organisée dans l'hémisphère sud a déjà marqué l'histoire de l'épreuve avec un record d'affluence battu et les éliminations inattendues de plusieurs nations phares. La surprise colombienne contre les championnes d'Europe anglaises, l'Australie de Sam Kerr contre la France d'Hervé Renard, le Japon qui rêve d'un deuxième titre et des absences de marque, c'est car ça s'annonce passionnant. Pour la première fois en 9 éditions, les Américaines ne sont pas au rendez-vous du top 8, victimes d'une séance de tirs au but fatale contre la Suède en 8e. À qui reviendra le trophée lâché par les doubles championnes du monde en titre, la probabilité de voir une nouvelle nation couronnée le 20 août est élevée, car ni la Norvège sortie en huitième, ni l'Allemagne éliminée en poule, ancien vainqueur, ne figure dans le tournoi. Seuls les Japonais, qui sont les seuls à avoir gagné tous leurs matchs sacrés en 2011 en Allemagne, sont candidats à un deuxième titre mondial.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les rescapés du génocide au Rwanda se disent extrêmement déçus par la décision du tribunal onusien de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, financier présumé du génocide. Ils craignent que cette décision ne compromette les efforts de lutte contre l'impunité. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Après l'annonce de la Chambre d'appel du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, un Rwandais soupçonné d'avoir financé le génocide des Tutsis en 1994, les réactions d'indignation se multiplient. Depuis la France, où Kabuga a été arrêté en mai 2020, les activistes des droits des rescapés du génocide estiment que cette décision témoigne encore une fois un manque de considération à l'égard des Africains par les Nations Unies.
Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les Nations Unies ne montrent pas d'empathie pour nos histoires, ne montrent pas d'urgence à la justice. Félicien Kabuga a été en cavale pendant plus de 25 ans. Il aurait été intéressant de savoir qui l'a aidé et comment, parce qu'il est certain que ces réseaux-là d'appui à une telle cavale étaient extrêmement puissants.
Pour le président de Ibuka, la principale association des rescapés du génocide des Tutsis, la déception est totale.
Nous avons été extrêmement déçus. La décision qui a été prise n'est pas pratiquement à la hauteur d'un jugement et des résultats que nous attendions du cas de Kabuga. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que pratiquement le déni de la justice.
Ce sentiment de déception est partagé par cet activiste des droits des rescapés du génocide qui craint que la décision du tribunal onusien ne favorise plutôt le négationnisme du génocide.
Dès lors que Félicien Kabuga a été arrêté, par exemple, on a vu des textes, des vidéos pullulées sur Internet pour expliquer que le Rwanda était un pays agricole et que les machettes servaient à l'agriculture et que Félicien Kabuga n'avait absolument jamais acheté ces machettes pour organiser le génocide. Voilà, c'est des théories négationnistes qui vont se trouver confortées par l'absence de la justice.
Maître Faustin Murangwa, ancien avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie, déplore pour sa part que la Cour n'a pas été suffisamment éclairée pour bien interpréter le rapport des médecins sur l'inaptitude de Kabuga.
Le rapport en soi n'est pas clair. Le procureur aurait dû demander d'abord un rapport clair. Il faut comprendre que les juges ne sont pas des médecins, non plus le procureur ou les avocats. Interpréter le rapport d'un médecin, je pense que ça demande un autre médecin. Et je pense que c'est ça qui a manqué. La Cour n'était pas éclairée pour prendre une décision quelconque.
Félicien Kabuga, âgé aujourd'hui de 90 ans, était présenté comme le grand financier du génocide des Tutsis au Rwanda et était le plus recherché des suspects génocidaires par l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Après une absence de 3 ans due au Covid, la foire Made in Togo a fait son retour à Lomé, la capitale togolaise. Cette fête foraine, qui réunit les entrepreneurs locaux, vise à promouvoir la consommation locale comme facteur important pour le développement économique et durable. Reportage sur place de notre correspondant Amen Assignon à Lomé.
Kani Kodjo est phytotechnicien de formation. Depuis quelques années, il s'est lancé dans la production de vins à base de fruits. Grand abonné de la foire Made in Togo, il est venu présenter de nouveaux produits. Du vin blanc à base d'ananas et d'orange et du vin rouge concocté grâce à une combinaison d'artémisia et du quinqueliba. Pour le jeune entrepreneur, cette foire est une occasion de montrer le savoir-faire togolais.
Nous avons décidé continuer pas faire confiance à la foi Made in Togo. Parce que déjà, le titre de la foi, ça devait être une foi annuelle pour chaque entrepreneur togolais. C'est notre foi à nous. Donc, nous devons nous approprier de cette foi. Donc, aussi que ça fait longtemps que la foi s'est arrêtée, nous voulons renouer avec nos clients habituels et pour qu'ensemble nous puissions fêter le Made in Togo.
Divers produits issus de tous les secteurs d'activité sont exposés ici. Et pour les visiteurs, tout aussi curieux et admiratifs, cette foire leur offre l'opportunité d'apprécier et de faire les découvertes. C'est le cas pour Abalo Tandao qui réside à Lomé.
Il faut dire qu'il y a de tout ici et pour satisfaire nos besoins. Les produits Made in Togo sont concurrentiels actuellement parce que j'ai vu que l'emballage est entretenu. Les gens font beaucoup d'efforts pour soigner l'emballage et la présentation.
Ce rendez-vous commercial vise non seulement à promouvoir les produits d'origine togolaise, mais surtout à stimuler leur consommation. Prince Adjato est membre du comité d'organisation.
Les outils de la foire Made in Togo, c'est de promouvoir les produits de chez nous, les produits locaux, les produits fabriqués, produits ou transformés sur le territoire national. Donc c'est une foire qui a pour objectif de faire éclore ces structures, ces jeunes entrepreneurs qui font ce qu'il faut pour permettre à l'économie nationale aussi de rebondir à l'échiquier international.
La foire Made in Togo se veut donc un espace dédié pour créer des liens entre les marchés, afin de favoriser une forte croissance des échanges commerciaux. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Ici aux États-Unis, les électeurs de l'Ohio ont rejeté mardi une réforme constitutionnelle voulue par le camp conservateur et qui aurait compliqué l'accès à l'avortement dans cet État du Nord américain. Le droit à l'avortement sera en jeu lors d'un scrutin en novembre et les républicains voulaient rendre une victoire du camp pro-IVG bien plus difficile. La question de l'avortement va-t-elle s'imposer dans la campagne pour la présidentielle de 2024? Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Tout à fait. Je crois que c'est pas une question est-ce que l'avortement doit être légal ou pas légal. C'est une question de le droit de l'avortement. Il y a beaucoup de femmes aux États-Unis qui n'ont pas l'intention d'avoir avortement, mais quand même, elles désirent le droit de choisir d'avoir un avortement. Et je suis d'accord avec eux.
L'Ohio a pourtant voté pour Donald Trump en 2016.
J'ai l'impression que Trump reste populaire dans la partie républicaine. Mais quand même, je crois que les indépendants, les votes, les gens qui votent ni démocrates ni républicains, mais changent chaque fois, et surtout des femmes qui habitent dans les banlieues. Je crois que ces gens commencent à être fatigués de Trump. Et à mon avis, ils vont voter contre Trump dans la prochaine élection.
On a eu l'échec de référendum anti-avortement dans les États très conservateurs comme le Kentucky et le Kansas. Est-ce que ça montre que les leaders républicains ne sont plus en phase avec l'électorat républicain sur cette question de l'avortement?
Ah, pas nécessairement, parce qu'il y a bien sûr l'Église catholique qui était toujours contre l'avortement. Mais un autre groupe aux États-Unis qui est important, c'est l'Église baptiste. Je crois qu'elle est la plus grande église chrétienne aux États-Unis. Je crois que l'Église baptiste représente quelque chose comme 25% des chrétiens aux États-Unis. Donc ce sont les catholiques et les baptistes qui votent contre l'avortement. Et c'est ces gens qui contrôlent maintenant la partie républicaine.
Selon des enquêtes d'opinion, les Américains veulent majoritairement protéger l'accès à l'avortement. Est-ce pour dire qu'un candidat à la prochaine présidentielle anti-avortement risque de perdre la Maison-Blanche?
Je crois que c'est vrai. Oui, parce que, comme vous dites, la majorité des Américains ne sont pas pour l'avortement, mais ils sont pour le droit de choisir un avortement. Et ça, c'est la majorité. Donc, tant que les républicains sont contre l'avortement dans le discours et tout ça, ils risquent de perdre la prochaine élection présidentielle en 2024. Les démocrates ont pris contrôle du Sénat et ils ont beaucoup réduit la majorité républicaine dans la Chambre. Et la question d'avortement avait joué un grand rôle.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Des événements géopolitiques comme la guerre, la chute d'un gouvernement ou l'effondrement de l'Union soviétique peuvent laisser des personnes apatrides. Ici aux États-Unis, plus de 200 000 personnes vivent avec le statut d'apatride. Aline Barros de la VOA s'est penchée sur l'apatridie aux États-Unis. Le récit est de Dilly Dico.
Karina Ambart-Soumian-Clau est une apatride vivant aux États-Unis.
Je suis née dans un pays qui n'existe plus.
Elle fait partie des quelque 218 000 personnes qui, aux États-Unis, n'ont la nationalité d'aucun pays. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé qu'il mettait en place de nouvelles procédures pour clarifier la signification du terme « apatride » dans le cadre de l'immigration.
Ils ont fait un grand pas en avant en reconnaissant les gens comme nous dans ce pays.
Karina est née à Odessa, en Ukraine, en 1988.
De mes parents, j'ai reçu deux héritages. Je suis à moitié arménienne et à moitié ukrainienne. Et ça a été un problème. Mon père a été pris pour cible en raison de son appartenance ethnique à Odessa, en Ukraine. Ma mère a fait une fausse couche dans la ville de mon père parce qu'elle a été battue dans la rue.
Sa famille s'est réfugiée au Canada, puis aux États-Unis, en 1996, où l'asile leur a été refusé. Mais entre-temps, l'Union soviétique s'est effondrée en 1991 et l'Ukraine est devenue un pays indépendant.
Nous sommes allés à l'ambassade d'Ukraine pour obtenir nos passeports et nos documents de voyage pour rentrer. C'est alors qu'ils nous ont dit « Nous ne vous reconnaissons pas comme étant des nôtres ».
Aux États-Unis, les apatrides n'ont pas de documents légaux ou d'identification pour montrer qui ils sont ou d'où ils viennent. Bien que certains, comme Karina, ont un certificat de naissance invalide.
La seule chose que j'avais à l'époque pour prouver mon identité était un certificat de naissance d'un pays qui n'existe plus. Mon acte de naissance soviétique avec une copie d'une traduction notariée. C'est tout ce que j'avais.
D'autres n'ont rien. Et à cause de cela, ils ont du mal à trouver un emploi ou même un logement. Margaret Stock est avocate spécialisée en droit de l'immigration.
Ils sont donc laissés dans l'incertitude. Mais physiquement, à l'intérieur des États-Unis, il n'est pas logique que nous n'ayons pas de solution à ce problème.
L'annonce du ministère américain de la Sécurité intérieure promet de donner des exemples et des preuves pouvant être utilisées par les officiers de citoyenneté et d'immigration pour aider les apatrides à obtenir des documents comme une carte verte américaine. À nouveau, Margaret Stock.
Les apatrides se heurtent à un problème de taille. Ils ne peuvent tout simplement pas prouver qu'ils ont droit à une carte verte parce qu'ils ne peuvent pas obtenir les documents nécessaires de leur pays d'origine.
Mais les apatrides ne peuvent pas non plus être expulsés parce qu'ils n'ont pas de pays où retourner. En plus, aucune loi internationale n'exige que les gens aient la citoyenneté d'un pays en particulier. Certains pays autorisent la citoyenneté lorsqu'on y est né. D'autres pays ne le font tout simplement pas.
En fin de compte, il est très très facile pour les gens de se retrouver sans pays.
On ne sait pas encore si la nouvelle politique américaine permettra à certains apatrides d'obtenir une carte d'identité ou une autorisation pour travailler légalement dans ce pays. Karina Ambart-Soumian-Clau espère que les nouvelles directives aideront enfin les personnes qui, comme elle, sont dans l'incertitude.
Merci Dilly, voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde Georges Léonard Sagno, à la console Jonah Cummins. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, ex-Twitter, et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.